selon Marc, ce c'était un incident très significatif de la vie du Messie. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et il y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ceci nous montre que Jésus s'intéresse à l'aspect financier de la vie des hommes, et l'intérêt qu'il portait ce jour-là aux finances du temple est toujours aussi vif en ce qui concerne son Église. L'attitude de quelqu'un envers son argent indique mieux que n'importe quoi la nature exacte de son caractère. C'est la raison pour laquelle on dit parfois que l'argent parle. Un vieux pope orthodoxe écrivait un jour, « Si tu veux connaître la profondeur de la religion d'un homme, il suffit de traiter une toute petite affaire d'argent avec lui. » Malgré le fait que certains des riches donnent beaucoup, Jésus estime que la pauvre veuve a donné beaucoup plus, puisqu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Ça nous permet par conséquent de dire que l'échelle biblique quant à ce qui revient à Dieu va de 10% des revenus à pratiquement tout, c'est-à-dire 100%. Nous voyons que le minimum accepté par Dieu de n'importe qui est la dîme, et que le maximum dans les cas qui nous occupent ici est la totalité. Jésus n'a dit à aucun moment à la veuve ni qu'elle ne pouvait se permettre d'offrir quelque chose à son Dieu ni qu'elle avait donné trop. Rien ne nous autorise à établir une sorte de règle, une règle de pourcentage ou même de somme déterminée. Mais le Fils de Dieu dit cependant, on demande beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et l'apôtre nous éclaire également dans sa première épître à Timothée, lorsqu'il exhorte en ces termes, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Le Saint-Esprit, par la plume de Paul, montre aussi que ce dernier avait occasionné un certain mal et avait du tort vis-à-vis de l'Église de Corinthe en ne l'ayant pas encouragé à contribuer aussi bien à son entretien qu'au travail qu'il accomplissait pour le Seigneur. En quoi, leur dit-il, avez-vous été traité moins favorablement que les autres Églises? Sinon, parce que je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Cette aide financière aurait donc dû être considérée non seulement comme un droit par cette assemblée, mais également comme un élément de faveur. Et c'est pourquoi Paul corrige leur manière d'agir, de penser. En 1 Corinthiens 9, 6, 14, passage malheureusement assez long, Paul suit un raisonnement un peu plus logique. Qui jamais fait le service militaire à ses propres faits? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Il attire ensuite leur attention sur ce que dit la loi de Moïse en matière de soutien financier à ceux qui prêchent. Mais pourquoi parler aux Corinthiens de cette loi de Moïse qui régit et qui régissait les Juifs et non plus les chrétiens? Et pourtant, nous voyons le Saint-Esprit qui inspire Paul en tant qu'apôtre chrétien parler à cette église de Corinthe, de cette ancienne loi, et dire, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit. Puis il ajoute, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. C'est de même aussi, dans le langage original, le grec, signifie de la manière dont il en est parlé, de la façon décrite, ou de la manière dont ça a été fait. Par ailleurs, le verbe « ordonner », toujours dans la langue du Nouveau Testament, veut dire « arranger », « nommer », « prescrire », « donner un ordre ». Tout ceci montre bien que Paul fait part aux chrétiens d'un ordre de Dieu, exigeant que ceux qui prêchent l'Évangile soient aidés et soutenus financièrement dans leur travail, au même titre que l'étaient dans l'Ancien Testament les ministres de la loi de Moïse, à qui allaient les dîmes et les offrandes du peuple juif. Nous ne vivons bien entendu plus sous l'autorité de la loi écrite par Moïse. nous sommes maintenant régis par la loi de Jésus-Christ, c'est-à-dire la loi spirituelle. Seuls ceux qui se conforment à cette loi-là ont la promesse d'une vie de bénédiction, tant ici-bas que dans l'au-delà. En 1 Corinthiens, il est stipulé que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ceci n'a absolument rien à voir avec les dépenses courantes des assemblées locales de l'Église. Cette instruction concerne une offrande bénévole particulière, répondant à une promesse faite en faveur des chrétiens de Jérusalem un an auparavant. Il serait donc vain de vouloir citer ce passage de la Bible comme devant représenter la méthode de financement de l'Assemblée locale. Tout au plus pourrait-on l'utiliser comme élément représentatif d'une méthode, constituant à chacun le premier jour de la semaine mettre à part chez soi ce que l'on pourra selon sa prospérité. Mais cela ne pouvait pas du tout servir de base absolue à des gens ne disposant d'aucun critère pour déterminer l'étendue de leur prospérité. On pourrait raisonnablement considérer que la base ou l'échelle des montants à restituer à Dieu part de 10% pour plafonner à 100%. Cependant, cette règle est strictement fondée sur l'amour et non sur une quelconque contrainte. On peut très bien en effet voler Dieu et périr dans son avarice, rien ne nous en empêche. N'importe quel acte ou don qui n'est pas motivé par l'amour ne peut profiter en rien à son auteur. C'est la teneur du message donné par le fameux chapitre 13 de 1 Corinthiens traitant de l'amour et disant notamment « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Peut-on dès lors véritablement parler de base et de plafond? Car quelle est l'étendue de l'amour que nous éprouvons tant pour Jésus qu'à l'égard des hommes pour lesquels il est mort crucifié? Pourquoi tant de chrétiens ne donnent-ils pas au moins le minimum? Ne serait-ce pas à cause de leur amour pour l'argent? L'apôtre nous dit bien, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Cette exhortation biblique nous fait toucher du doigt le véritable nœud du problème. Ce que nous donnons doit venir du cœur, comme le proclame 2 Corinthiens chapitre 9 et verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si nous aimons réellement Dieu, ce que nous lui offrirons en sera le reflet. Notre don ne sera cependant acceptable aux yeux de notre Créateur que s'il est directement proportionnel à ce que nous possédons. Écoutons 2 Corinthiens 8, 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ceci, par conséquent, peut être mis en parallèle avec Romains 12, 8, qui dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Nous pouvons maintenant, je crois, mieux comprendre pourquoi Ananias et Saphira ne pouvaient tromper Dieu en ce qui concerne leurs intentions de dissimuler une partie de leur propriété. Et nous ne le pouvons pas davantage. Si quelqu'un, après avoir décidé d'obéir à la volonté de Dieu, disait, après avoir confessé sa foi, « Je considère que le baptême n'est pas essentiel au salut, et je suis prêt à risquer mon salut éternel en étant simplement aspergé. Pourrions-nous le considérer comme un frère en demeurant silencieux devant le caprice de son impression toute subjective? Si une telle idée personnelle concernant la confession de foi et le baptême ne suffit pas, il doit en être de même pour le don de nos services, de notre temps, de nos talents et de notre argent à l'œuvre du Seigneur. Dans la vie d'un chrétien, ce qui constitue un devoir à côté représente d'office un semblable devoir de l'autre côté. Si nous vivons sous la loi de la grâce en ce qui concerne la foi, la repentance, la confession de foi et le baptême, nous sommes également sujets à la loi concernant l'argent. Vivre dans le désordre, c'est marcher en contradiction avec la volonté de Dieu sur n'importe quel point. Un disciple de Christ se tenant délibérément à l'égard de la Sainte Seine vit dans le désordre. Il doit être exhorté par ses frères. Et il en va de même pour celui qui, par amour de l'argent, ne rend pas à Dieu ce qu'il est en devoir d'attendre de lui. Le soutien financier à la prédication de l'Évangile ne représente nullement une simple option. Nous lui devons exactement la même fidélité sans condition qu'à la foi, la repentance, la confession de foi et le baptême. Il s'agit d'un véritable devoir, d'une obligation formelle. La méthode consistant à donner d'une manière impulsive est purement humaine et non divine. Ce n'est pas ce que Dieu demande de nous, au contraire. Nos dons doivent être faits d'une manière déterminée, concertée, réfléchie. Et on voit trop souvent des chrétiens pleurer misère lorsqu'il s'agit de donner au Seigneur, alors qu'il dispose de tout l'argent nécessaire pour des choses qui ne sont pas essentielles, voire même parfaitement inutiles. Jésus dit en Luc, chapitre 16, versets 11 à 13, « Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nombreux sont ceux qui, en matière d'argent, ressemblent fort aux pharisiens, à qui Christ disait, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Souvenons-nous, comme le disait le Seigneur, que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.